Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royans Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Osons l'intime, la chronique où on aborde différents sujets en lien donc avec l'intimité. Et on va parler aujourd'hui donc en compagnie de Céline et de Stéphanie du collectif féminin Naissance Royans Vercors. On va parler aujourd'hui d'un vaste sujet justement qui mérite bien plusieurs épisodes. On va parler du sommeil de notre bébé. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et c'est Céline qui va aborder donc ce sujet sur le sommeil du bébé.
Vaste sujet, tu le nommes bien. J'avais quand même un peu d'appréhension à aborder le sujet et en même temps, il me semble tellement inévitable quand on parle de maternité, d'accompagnement, de vécu. Et du coup, là, je viens pas vraiment en tant qu'experte, mais plutôt en tant que moi, mon vécu déjà de maman, et puis tout ce que j'ai pu observer, les témoignages que j'ai reçus, ce que j'ai pu lire. Et mon ambition ce matin, c'est un peu de vous partager ces différents parcours, ces différents discours, de vous faire un peu une trame de d'où on vient, des différents enjeux, de vous donner quelques repères physiques, idéologique, et puis d'aborder ce fameux grand écart entre l'idéologie et la réalité de qu'est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, dans le contexte actuel. Alors, peut-être pour commencer, c'est dire qu'il n'y a pas de recette magique. Malheureusement, notre bébé ne naît pas avec un mode d'emploi, et je crois que ça, on le sait. Et qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, moi, je rencontre beaucoup de parents, j'entends beaucoup de récits où il y a énormément d'épuisement et beaucoup de détresse autour de ce sujet-là, de comment faire, j'ai la tête sous l'eau, je sais plus quoi écouter, qui écouter, quoi mettre en place, et puis je suis tellement en mode survie que j'ai même plus les ressources pour prendre du recul, me faire aider. Voilà, ma première intention, c'est peut-être déjà d'accueillir cette détresse, de l'entendre, de pouvoir la nommer, de pouvoir la dire. Et de pouvoir la reconnaître que aujourd'hui, dans notre contexte actuel, avec un tas de facteurs, mais notamment pour pas mal de parents, un retour au travail assez précoce, et aussi nos ambitions d'accompagnement très proximal de nos enfants, bah on en vient à des situations où on peut être très seul et très fatigué.
Et c'est très difficile, effectivement, d'avoir les idées claires quand on ne dort pas, tout simplement, ouais. Et de savoir vers quoi se diriger.
Ouais. Le sommeil, c'est une torture. Hein. Le manque de sommeil, ça a été utilisé comme une torture. Et donc, c'est sûr que c'est difficile de faire un pas de côté. Donc, ma première invitation, c'est accepter de vous faire accompagner, aller chercher de l'aide, parlez-en. Restez pas seul avec ça. Et peut-être attendez pas d'être au fond du gouffre pour mobiliser des choses. Alors, il y a peut-être deux grands discours. C'est celui de « c'est normal, tu vas pas dormir pendant 2 ans, et puis ça va passer, et mort sur ta chic. » Un peu « allez, on va y aller, quoi. » Et puis, te plains pas trop, hein. On est tous passés par là. Et l'autre discours, c'est « laisse pleurer ton enfant, dans 2-3 jours, c'est réglé, et puis tu pourras passer à autre chose. » Enfin, il y a vraiment quand même... un peu ces deux extrêmes, et pour beaucoup de nous parents, cette recherche de la voie du milieu, de comment à la fois je peux accompagner mon enfant en proximité bienveillante, tout en respectant mes limites et en ayant suffisamment de sommeil. Peut-être juste avant de plonger un peu plus dans ces discours et ces différentes approches, j'avais envie de nommer un peu d'où on vient. Alors moi, j'ai quand même cette impression que les dernières générations ont eu fort ce discours de laisser pleurer les enfants, justement, pour qu'ils fassent ses nuits en autonomie. Moi, je me rappelle très très bien, j'étais ado au lycée, et la mère d'une copine était directrice de crèche, et elle venait d'accoucher d'enfants, des jumeaux, je sais plus. Enfin, du coup, il y avait un gros décalage d'âge, et moi, j'allais chez ma copine, et puis j'entendais ces bébés pleurer, et cette copine me disait « Oui, il faut les laisser pleurer pour qu'ils dorment. Ma mère est directrice de crèche, elle sait comment il faut faire, et c'est ça la solution. » Et j'ai une une empreinte de ça qui est encore très présente aujourd'hui, de quelque chose au fond de moi qui me dit « Non, c'est pas juste, ça peut pas, quoi. » Enfin, ça me prenait vraiment aux tripes de « Waouh, c'est trop dur, en tout cas, dans mes tripes à moi de femme ou de je sais pas, ça, en tout cas, ça fait pas sens pour moi. » Et du coup, en devenant maman, moi, je crois que j'ai quand même cherché à trouver des réponses de... Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir dans ma posture parentale à mon enfant? C'est quoi mon rôle de parent en tant qu'accompagnante? Et j'ai été un peu revoir... Enfin, j'ai été très fort touchée par ces discours de parentage proximal, bienveillant, tous ces discours, ces mots de on va suivre la physiologie de l'enfant. Et tout ça, ça veut dire quoi au final? Enfin, je crois que c'est un peu un rêve aussi. Déjà, peut-être rappeler qu'on est des êtres relationnels, on est des mammifères, les bébés naissent prématurés.
Si, oui, même quand ils naissent à terme, en fait, c'est des bébés qui continuent de se construire. C'est ce que tu veux dire après la naissance?
Oui, ce que je veux dire, c'est que bah, leur cerveau est beaucoup trop gros. Avec l'arrivée de la marche, notre cerveau a grandi, le bassin des femmes n'est pas assez large. Et du coup, bah, pour que le bébé puisse sortir, il faut qu'il se naisse à ce moment-là, parce qu'après, ce sera trop tard, quelque part. Et du coup, quand il naît, il est encore très, très dépendant. Et on dit que pour atteindre sa maturité, il faut entre 9 à 18 mois pour qu'ils trouvent un peu ce que d'autres mammifères peuvent avoir dès la naissance comme potentiel, comme acquis d'autonomie, je vais dire. Donc le bébé naît très prématuré et il y a un grand besoin de continuité avec la vie intra-utérine, un besoin de sécurité affective, un besoin d'accompagnement pour réguler ses émotions. D'où ce discours aujourd'hui de « on ne laisse pas pleurer un enfant seul, en tout cas ». Il a besoin de présence, il a besoin de réassurance. Et ça, c'est soutenu par les théories d'attachement qui parlent de ce besoin de sécurité affective pour que le bébé développe des compétences qui, après, parce qu'il est en sécurité, il pourra aller explorer le monde et il aura la capacité de se réguler dans des situations d'insécurité. Mais tout ça, c'est progressif et c'est long et ça demande de la présence, de la réassurance, voilà. Et des réponses adaptées aux besoins et une certaine cohérence et régularité dans les réponses. Parce que si un coup, ma mère, elle est là, elle m'écoute, et puis l'autre coup, elle est absente, je sais plus comment réagir, ça aussi, ça peut créer des troubles de... En fait, j'ai plus de repères, je sais pas quand j'aurai une réponse sécurisante ou pas, et ça peut créer aussi de l'insécurité. Après, rappelons que les bébés sont pleins de ressources et de résilience aussi, et que la mère n'est pas la seule figure d'attachement. Je trouvais ça très intéressant d'entendre qu'il fallait plusieurs figures d'attachement pour un développement sain d'un enfant. Certains disent 6 à 8, d'autres disent qu'il faut des tribus de 9 à 15 personnes. Et du coup, cette phrase de « il faut un village pour élever un enfant », enfin, elle est... On l'entend beaucoup, mais on l'incarne pas du tout dans la vie. Et qu'est-ce qu'on entend par figure d'attachement? C'est une personne qui offre des soins réguliers, qui a une présence régulière, qui a une capacité d'accompagner l'enfant vers une co-régulation de ses émotions pour l'apaiser. Ça se construit dans le temps. Au début... Dans les premières semaines de vie, il faut une présence très régulière de tous les jours, tous les deux jours, sur des moments peut-être plus courts. Et puis, au fur et à mesure, avec l'âge de l'enfant et puis aussi avec ce lien qui s'est construit, par exemple, la grand-mère, si elle vient qu'une fois par semaine, ça va, le lien, il est là, la tâche, elle est là, l'attachement, il est là. Et puis progressivement, on va pouvoir aller confier l'enfant chez la grand-mère quelques heures. Voilà. Et donc pour moi, il y a une réelle réflexion en tant que parent, avant d'accueillir cet enfant, de se dire mais de qui on a envie de s'entourer pour que mon enfant ait d'autres figures d'attachement que moi. Déjà parce que je ne peux pas être le tout pour mon enfant, je ne suis pas infaillible, je vais avoir des moments où je vais craquer, je vais être fatiguée, je vais pas être disponible et donc je vais avoir besoin de relais. Et puis aussi je crois, enfin pour moi il y a aussi cette richesse de la multiplicité des figures parce qu'on apporte toutes quelque chose de différent à l'enfant. Ça c'est plutôt le bonus.
Tu parlais de l'importance de constituer donc cette équipe avant la naissance quelque part pour s'occuper de cet enfant dont les parents vont être les principales figures d'attachement, mais voilà, qui va avoir éventuellement d'autres figures un peu annexes autour de lui.
Oui.
Est-ce qu'il va aider à gérer cette question du sommeil qui peut être très très difficile effectivement si seuls les parents gèrent ça.
Oui, pour ne pas être seul à accompagner. Alors, pour continuer un peu avec cette thématique de d'où on vient, alors je vous ai parlé de nos dernières générations, de notre héritage mammifère, avec ces besoins-là de sécurité. Et il y a aussi ce contexte d'évolution où, oui, avant, la tribu jouait vraiment un rôle important d'accompagnement parental. Il arrivait que d'autres femmes que la mère allaitent l'enfant, que l'enfant soit porté par plein d'autres figures d'attachement, et donc l'accompagnement était porté par le groupe. Aujourd'hui, on vit dans des familles monoparentales, il y a de plus en plus de familles monoparentales, et on vit en famille nucléaire, de manière très individualisée. Et en parallèle de ça, il y a eu aussi toute cette évolution d'un modèle où on suivait un rythme très organique vers un rythme avec l'industrialisation de jour-nuit très distingués, avec des horaires très fixes et avec l'arrivée de la nuit complète. Je dors 10 heures, 8 heures, 12 heures d'affilée en bloc, ce qui n'est pas forcément un rythme organique et naturel.
Même pour les adultes, en fait.
Même pour les adultes. Ouais, c'était assez impressionnant de lire qu'il y a eu des époques où ils se couchaient en même temps que les enfants, puis les adultes se réveillaient vers minuit jusque 2 heures pour faire du social, de l'affectif, des petits travaux manuels, et puis ils se recouchaient vers 2-3 heures du mat jusqu'au matin. Comment on peut venir déconstruire les croyances qu'on peut avoir de ce qui est normal? Et donc moi je suis un peu dans ce truc de ah mais alors ça veut dire que mon rôle à moi en tant que parent c'est d'accompagner mon enfant à, c'est un apprentissage, le sommeil autonome, de s'endormir seul, de dormir plusieurs heures d'affilée, pour qu'il rentre dans mon moule. Dans notre moule à nous de société, il faut l'accompagner. Alors, dans des bouquins, je lisais, il ne s'agit pas d'un apprentissage. Le bébé, même in utero, il dort. Donc, il a cette compétence de dormir. Ça aussi, c'est intéressant de savoir. Le bébé in utero a cette compétence de s'endormir, se réveiller sans que j'ai besoin de le bercer ou de quoi que ce soit. Après, avec la naissance, le contexte change. Il n'est plus dans cette bulle où tous ses besoins de nutrition, d'élimination, de température sont comblés sans même qu'il ait à manifester un besoin. Donc forcément, il y a une adaptation, il y a aussi toute l'inquiétude, toute la découverte, tout changement crée un terrain d'insécurité parce que c'est nouveau et que du coup, il faut se familiariser et trouver ses repères. Donc faire ses nuits, cette fameuse notion de faire ses nuits, quand on parle de ça aujourd'hui, on fait référence à un bébé qui dort 5 à 7 heures d'affilée sans se réveiller, et qui va du coup avoir un petit réveil dans la nuit, et puis redormir 5-6 heures pour terminer sa nuit. Ça, c'est un bébé qui fait ses nuits, entre guillemets. Et là, pareil, du coup, ça vient déconstruire. C'est pas forcément un enfant qui dort 12 heures d'affilée. Après, du coup, c'est aussi dire que c'est normal qu'un enfant se réveille la nuit. Et moi, ce qui m'a quand même pas mal aidée, c'est d'avoir aussi des repères de à quel âge l'enfant a besoin de combien d'heures de sommeil. Ces temps d'éveil vont être de quelle durée, et la fréquence, évaluer un peu, avoir une idée du nombre de réveils normaux, de nouveau, entre guillemets. Mais donc c'est tout un enfant qui se réveille une à deux fois par nuit entre 4 mois, enfin ou même déjà. Il y a notamment Fée Dodo qui accompagne Caroline Ferriol qui a, enfin mais sur internet vous en trouvez plein des différents des fiches un peu repères des besoins de sommeil de l'enfant. Peut-être j'en profite pour glisser. Fée Dodo, c'est une association portée par Caroline Ferriol qui a une approche, je vous en parlerai après, des différentes approches. Mais elle tire notamment une sonnette d'alarme en disant il y a un réel manque de sommeil, une dette de sommeil, à la fois pour le parent, mais pour l'enfant aussi. Les enfants sont fatigués. Les bébés, les enfants, les plus grands enfants, les ados, et il y a une réelle problématique sommeil, pas que pour les bébés en fait. On voit même des adultes, le nombre d'insomnies, tout ça. Et donc pour elle, c'est vraiment un problème de santé physique, santé mentale. On sait que quand on est en manque de sommeil, ben, les apprentissages sont plus difficiles, on est beaucoup plus ronchon, on est vraiment en difficulté relationnelle, sociale, de concentration, on va être de plus en plus agité, on va avoir beaucoup plus de mal à gérer ses émotions, frustration, colère, et ça qu'on soit enfant ou adulte. Et les chiffres qu'elle donne sont assez effrayants. Je les ai pas sous les yeux.
Mais on vous mettra la référence sur le site internet en mettant la chronique en ligne, donc sur radioroyon.fr.
Ouais, super. Et du coup, voilà, j'ai ouvert ce sujet de ces différentes approches de comment on peut accompagner l'enfant. Et je vous propose de nous rejoindre dans une prochaine émission pour en entendre plus parler de ces différentes stratégies et de comment on fait ce grand écart entre ce que j'aimerais tellement et ce que je peux et comment j'apprends à me respecter, m'écouter et nourrir la confiance en moi.
Donc on va passer de la théorie à la réalité dans cette prochaine chronique. Osons l'intime, donc, qui abordera à nouveau la question du sommeil du bébé en compagnie de Céline du collectif féminin Naissance Royan Vercors. Et il y avait également Stéphanie qui nous accompagnait aujourd'hui au micro.
Et si vous voulez en savoir plus sur le sommeil des bébés, on organise avec le collectif féminin Naissance une projection du documentaire Mon postpartum par Eve Simonet qui se fait à La Paz au centre social à Saint-Jean en Royan. On l'organise en 4 épisodes. Le 3e épisode sera diffusé le 2 mars à 19h30 jusqu'à 21h, donc une demi-heure de projection et un temps d'échange d'une heure pour ceux qui souhaitent rester. Et la dernière projection, le 30 mars, pareil, 19h30, 21h. La projection est gratuite. Le 2 mars, la projection sera vraiment sur la thématique du sommeil du bébé et des parents. Et la projection du 30 mars sera davantage autour de la thématique de la place des pères et de ce postpartum plus long, au-delà des premiers mois. Et vous pouvez vous inscrire au 07 83 60 72 85. Vous trouverez toutes les informations sur le site Féminin Naissance Royan Vercors ou nous envoyer un mail fémininnaissance@gmail.com.
Merci beaucoup à toutes les deux. Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors à l'adresse mail suivante fémininnaissance@gmail.com.